Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu.
Nous sommes tous confrontés à cette question de la mort. Toutes les religions du monde, toutes les philosophies du monde s'arrêtent à la question de la souffrance et de la mort. C'est une énigme infranchissable, incompréhensible. Les nations, les religions ont peu à peu inventé, fabriqué des mythes. Ils imaginent tout un tas de réalités pour essayer de parler de la mort, pour essayer d'anticiper ce qui peut se passer. Les Égyptiens en ont beaucoup parlé, ont beaucoup cultivé ce mythe, ce culte de la mort, de l'au-delà. Israël n'invente rien. En Israël, on cultive simplement cette parole qu'on a reçue et qu'on essaye de méditer. La poussière retourne à la poussière. On sent bien que la mort est une conséquence du péché sans pouvoir encore l'affirmer totalement. Les morts sont au Sheol, ce lieu mystérieux dont personne ne revient. Au fond, on n'en parle plus, on n'en parle pas. Ce qui compte, c'est la vie. On parle de cette vie, de ce côté-ci de la tombe. On demande au Seigneur la prospérité. La prospérité est toujours la marque de la bénédiction de Dieu. On demande au Seigneur le pardon des péchés parce qu'on sent bien que la justice de Dieu doit s'exercer. Pour Israël, ce qui compte vraiment, c'est la vie, d'être vivant pour le Seigneur. On ne peut pas quand même ne pas se poser la question. Et déjà, Job avait compris, en tout cas l'auteur de ce livre merveilleux, comprend que la souffrance, la détresse n'est pas nécessairement une punition de Dieu pour des péchés qu'on aurait faits. La théologie de la rétribution en prend un coup et on comprend au fond qu'on ne peut pas comprendre. On comprend qu'il y a des réalités qui nous dépassent et que justement cette réalité de la détresse, de la souffrance, de la mort appartient au mystère de Dieu. Et puis, peu à peu, les événements nous obligent à réfléchir un peu plus loin, en particulier les grandes persécutions d'Antiochus Épiphane au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est cette période où est écrit le livre de Daniel, dont nous avons lu cet extrait, première lecture. Persécution épouvantable d'un tyran qui empêche les Juifs d'exercer leur culte, de vivre leur religion, et qui exige qu'on lui rende à lui, Antiochus, le culte qui était réservé à Dieu. Les Israélites seront devant une question grave, une décision de conscience. Est-ce que finalement on se laisse faire, on ne peut pas faire autrement? Ou est-ce qu'on résiste au prix de tortures épouvantables, au prix de la mort? Et on sent que si on fait ce sacrifice de la vie pour la gloire de Dieu, pour la fidélité à la foi au Dieu d'Israël, Dieu ne peut pas ne pas en tenir compte. Et pour la première fois, c'est Daniel qui a cette intuition de la résurrection des morts. Ceux qui sont morts pour le Seigneur, ceux qui sont morts pour la fidélité à la loi, à l'alliance de Dieu, ne peuvent pas ne pas être rétribués de l'autre côté de la tombe. Et nous avons lu dans le livre de Daniel ce matin la toute première apparition de la foi en la résurrection. Dans ce temps-là, vers le deuxième siècle avant Jésus et beaucoup autour, a fleuri dans cette région du monde une littérature qu'on appelle aujourd'hui littérature apocalyptique, pour essayer de dire la détresse du monde, pour essayer de dire les tremblements du monde. Mais dans la Bible, cette littérature apocalyptique a un jour tout à fait différent de ce qu'elle est autre part, parce qu'elle est une révélation de la gloire et de la victoire finale de Dieu. Autrement dit, on fait un contresens total quand on parle d'Apocalypse comme la révélation d'événements dramatiques, d'événements catastrophiques. Faire l'équivalence entre Apocalypse et catastrophe est un vrai contresens contre la littérature biblique. L'Apocalypse, au sens biblique du terme, particulièrement dans le Nouveau Testament avec l'Apocalypse de Saint Jean, c'est une révélation, un dévoilement, comme si on soulevait un coin du voile, pour révéler précisément la victoire de Dieu et plus précisément encore la victoire de son amour. Jésus reprend à son compte cette littérature apocalyptique, cette manière de parler en Apocalypse, où tout est codé. Tout signifie des choses précises, mais d'une manière que nous autres occidentaux du XXIe siècle, nous avons de la peine à comprendre. Jésus annonce un grand événement, celui que nous lisions dans l'Évangile d'aujourd'hui. L'événement qu'il annonce, c'est sa propre victoire par sa mort et sa résurrection. Sa victoire, justement, sur la mort. Si Daniel a eu l'intuition de la résurrection, si avant le Christ, les pharisiens, par exemple, croyaient déjà à la résurrection, ils n'avaient aucune idée et ne pouvaient avoir aucune idée de la façon dont ça pourrait se passer. Personne ne pouvait imaginer qu'un homme, le Messie de Dieu, serait mort et ressusciterait. Quand Jésus annonce sa passion, sa mort et sa résurrection, c'est quelque chose qui est encore incompréhensible pour les apôtres. Nous autres, nous sommes habitués à cette manière de parler, encore que ce n'est pas sûr que nous comprenions bien grand-chose, mais pour les apôtres, pour les disciples de Jésus, c'est un langage qui est incompréhensible. Jésus l'annonce, non pas pour qu'ils comprennent avant, mais pour qu'après sa résurrection, ils puissent comprendre que Jésus l'avait annoncé et que c'est bien vrai. L'Épître aux Hébreux, dont nous avons lu un extrait aussi très important aujourd'hui, prend du temps pour expliquer, pour montrer, pour prouver que le Messie attendu est bien le Christ Jésus. Pour montrer que Jésus est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, qui n'accomplira plus un sacrifice chaque jour ou chaque semaine ou chaque année, pour un pardon des péchés qui ne sera jamais parfait. Le Christ, lui, au contraire, le grand prêtre parfait, accomplit un sacrifice unique, définitif, qui obtient définitivement le pardon des péchés. Oui, c'est bien lui le Fils de l'homme, c'est bien lui le Messie. Et donc, la victoire de Jésus est réellement une bonne nouvelle, elle est même la bonne nouvelle, la mort est vaincue. La mort est vaincue par la victoire du Christ, mais sa victoire, c'est la victoire de la croix. Ça n'est pas une victoire triomphante à la manière de Napoléon ou à la manière de tous les grands de ce monde, C'est une victoire par l'abaissement. Lui qui était de condition divine prend la condition de serviteur et d'esclave pour se faire obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. De la crèche à la croix, le Christ, vrai Messie, envoyé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, annonce la victoire, non pas par la puissance des armes, mais par la puissance, la toute-puissance de l'amour. Nous aussi, nous suivrons le chemin du Christ pour triompher avec lui, pour nous asseoir avec lui à la droite de Dieu, mais à travers la victoire de notre propre mort, la mort à nous-mêmes. La victoire de Jésus qui sauve et qui reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, ce sera notre propre victoire. Cette victoire, elle est certaine, elle est vécue par nous aujourd'hui dans l'espérance, parce que nous ne le voyons pas encore, mais elle est sûre, elle est ancrée sur la foi en Jésus-Christ. Comme dira saint Paul, « Si de ta bouche tu proclames que le Christ est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu es sauvé. » Je suis sauvé dans la mesure où j'adhère par la foi au Seigneur Jésus, vrai Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, et si dans l'espérance je vis déjà de cette victoire, unie à lui par l'amour, l'amour de son cœur, l'Esprit Saint. Et donc, nous attendons nous aussi ce jugement, cet événement particulier pour chacun d'entre nous, général quand il sera la fin du monde, cet événement qui sera le jugement de Dieu et le rétablissement d'une vie définitive. Notre vie n'est plus mortelle, elle est désormais immortelle parce que nous avons triomphé avec le Christ et en lui. Reste à introduire cette victoire dans notre propre vie. Alors, trois dimensions à bien méditer et garder aujourd'hui. Premièrement, il s'agit d'un jugement. Nous sommes jugés, nous serons jugés par l'amour et par la vérité. Rien de plus exigeant que l'amour, c'est réellement une justice. C'est curieux que nous qui sommes si attentifs à la justice pour nous-mêmes, nous soyons si effrayés de ce jugement. Est-ce que ce jugement nous fait peur ou est-ce que ce jugement est réellement pour nous une bonne nouvelle ? Ce jugement nous fait peur parce que nous sentons bien que nous ne sommes pas conformes à l'amour de Dieu. Nous sentons bien que dans notre cœur il y a des ombres et que nous ne sommes pas transparents à la grâce de Dieu. Oui, c'est une justice. Si ça n'est pas une justice, c'est un mensonge. L'amour de Dieu, la dignité de l'homme, la liberté de l'homme sont des mensonges. Heureusement qu'il y a une justice. Et si elle n'est pas réalisée sur la terre ici-bas, elle se réalisera un jour au ciel. Enfin, les mauvais seront jugés et condamnés. Enfin, le mal sera condamné. Enfin, le bien sera reconnu. Et le bien caché par ceux qui ont été dans ce monde humble et pauvre sera reconnu et universellement connu. Oui, c'est une justice, mais c'est une justice de miséricorde. S'il n'y a pas de miséricorde, alors tremblons de peur parce que nous sommes pécheurs. Qui d'entre nous peut prétendre se tenir debout devant Dieu s'il n'est pas reçu et accueilli dans la miséricorde? Entre notre mort et le jugement dernier, il y a cet état étonnant où l'âme sera séparée du corps, notre corps sera détruit progressivement pour retourner à la poussière, et l'âme sera auprès de Dieu, ou bien dans la condition des saints, qui sont déjà dans la gloire et dans la vision béatifique, dans la vision de Dieu, ou bien dans cet état d'attente, curieusement appelé le purgatoire, pour achever de brûler en nous, achever de purifier en nous ce qui doit l'être, pour que notre cœur, pour que notre âme, pour que les yeux de notre âme puissent voir Dieu, puissent être adaptés à la brûlure de son amour. Cet état, c'est l'état dans lequel aujourd'hui les saints sont fixés, Tous les saints de l'ancienne alliance ont été, le Seigneur, dans sa mort, est descendu aux enfers pour chercher tous ceux qui étaient morts avant lui, pour les emporter dans cet état intermédiaire de l'attente du jugement final, cet état où la plupart d'entre nous, si la fin du monde n'est pas dans les années qui viennent, nous irons nous aussi attendre l'accomplissement total de ce monde. Mais troisièmement, la fin du monde, l'achèvement du monde, l'accomplissement du monde, nous l'attendons. Elle passe, dit saint Paul, la figure de ce monde. De la même que ma vie sur la terre n'est pas éternelle, ma vie est éternelle en Dieu, mais pas sur la terre. De la même manière, le monde tel que nous le connaissons n'est pas pour toujours. Ce monde doit être transformé pour être achevé en Dieu, pour être, selon la belle expression de saint Paul, récapitulé en Dieu. Ce jour-là, de fait, le Christ reviendra dans sa gloire, non plus pour sauver, c'est fait, mais pour juger, c'est-à-dire pour accueillir ceux qui reçoivent son amour et pour condamner ceux qui le refusent. Ce n'est pas Dieu qui condamne, c'est celui qui refuse l'amour qui se condamne lui-même. Alors tous ressusciteront, ceux qui accueillent l'amour de Dieu ressusciteront pour être éternellement vivants d'une vie définitivement fixée dans le cœur de Dieu. Ceux qui refusent cet amour de Dieu ressusciteront pour mourir de nouveau. C'est la seconde mort dont parle l'Apocalypse, la mort éternelle. Ils seront éternellement fixés dans cet état de mort terrible. De ce jour, nous ne savons rien. Nous ne savons rien, pas plus du jour de notre propre mort que de la fin du monde. Le Fils de l'homme lui-même, dit Jésus, ignore ce moment. Ce moment n'appartient qu'à Dieu Père. Ce moment n'appartient qu'à la sagesse du Père. Pourquoi ne l'a-t-il pas révélé pour nous maintenir dans l'adhésion de l'amour, pour nous maintenir dans la veille de l'amour, veiller et prier? Qui d'entre nous pourrait dire le contraire si nous savions quand ce jour arriverait? Nous serions les premiers à vivre d'une façon qui n'est pas conforme à celle de l'amour pour nous convertir peut-être le dernier jour, au dernier moment. Aujourd'hui, vivons dans l'amour parce que ce monde est à sauver, parce que ce monde est à aimer, parce que ce monde ignore Dieu et que nous avons, nous les chrétiens, nous qui avons la foi, nous avons la mission d'annoncer cette bonne nouvelle. Nous avons cette mission d'annoncer au monde qu'il ignore que Dieu est amour et qu'il n'a rien à craindre de cet amour, au contraire, il a tout à recevoir. Qui l'annoncera si nous ne le faisons pas? Qui dira à nos voisins de palier, à nos voisins dans la rue, à ceux qui travaillent avec nous, à ceux qui vivent avec nous, qui dira à ce monde que Dieu est amour et qu'il n'a rien à craindre de l'amour de Dieu? Au contraire, il a tout à recevoir. Nous l'annoncerons jusqu'à son retour. Nous l'annoncerons jusqu'à ce qu'il vienne. Confions-nous à la Vierge Marie. Elle a déjà achevé son parcours. Non seulement elle est fixée dans cette vision béatifique, mais elle, en anticipation par rapport à tous les autres, parce qu'elle est la Mère Immaculée, a été déjà ressuscitée dans son corps. Elle est vivante dans son corps, dans la gloire de Dieu. Elle annonce ce que nous-mêmes nous connaîtrons quand enfin le monde sera achevé dans l'amour. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la pauvreté, la journée mondiale des pauvres. Ce monde, Dieu l'aime. Ce monde, nous en sommes responsables. Ce monde, nous le construisons. Nous le construisons en vivant l'amour que nous recevons de Dieu. Ce monde, qu'il soit vivant en Dieu, qu'il soit vivant pour Dieu, c'est notre mission. Accueillons-la et soyons-y fidèles. Amen.